Un appel pour résister et pour la liberté. Le célèbre message du général de Gaulle lancé le 18 juin 40 a été commémoré ce matin à Nouméa. Un climat des affaires plutôt stabilisé, mais les chefs d'entreprise craignent de ne pas retrouver leur niveau d'activité d'avant émeute. Le directeur général de l'IOM était ce matin notre invité. La CPS forme des ambassadeurs à la lutte contre les maladies non transmissibles. Ils devront ensuite mener des projets de prévention dans leurs pays respectifs. Donald Trump réunit un conseil de sécurité nationale après avoir quitté précipitamment le G7. Il doit notamment décider d'une éventuelle intervention militaire en Iran. En sport, V5 pourrait franchir en vainqueur ce soir la ligne d'arrivée de la Groupama Race. Ce matin, le bateau BCI Brer Fox a été contraint à l'abandon. Et puis la disparition de Bernard Lacombe à l'âge de 72 ans. Ancien avant-centre de Lyon et de l'équipe de France, il avait marqué son époque. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait son célèbre appel sur les ondes de la BBC. C'était il y a 85 ans et la date a été commémorée aujourd'hui encore à travers une cérémonie qui s'est déroulée ce matin à la Croix de Lorraine à Nouméa, Léana Colombo.
Oui, une journée pour se rappeler ces Français qui ont refusé la défaite en 1940. Cet appel du 18 juin a été prononcé par le général de Gaulle le lendemain de la nomination du maréchal Pétain comme président du Conseil. Ce dernier fera un discours dans lequel il annonce qu'il faut cesser les combats avec l'intention de demander un armistice impensable pour le général de Gaulle qui s'adresse à tous ceux qui veulent continuer le combat.
Ici Londres, juin 1940, le général de Gaulle vous parle.
Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Cette guerre est une guerre mondiale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Voilà un extrait de l'enregistrement radiophonique de l'appel du 22 juin, celui du 18 juin n'ayant pas été enregistré. Une date anniversaire qui est devenue symbole d'espérance, pouvait-on entendre dans le discours du ministre des Armées lu par le haut-commissaire Jacques Billon.
Lecture du message de M. le ministre des Armées par M. le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Londres, le 18 juin 1940 à 18h sur les ondes de la BBC. Le cours de la guerre est dévié. La France semblait vidée de ses forces. Mais il restait cela, une voix. Et c'est ainsi que l'appel du 18 juin, lancé dans le silence, devint une onde, un souffle, une chaîne humaine reliée par des liens invisibles. Depuis, le 18 juin n'est pas seulement une date. Il est devenu un nom qui ne désigne plus qu'une seule chose, l'espérance.
Il était important aujourd'hui de se rassembler autour de ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité fondatrice de notre nation et de rendre hommage aux compagnons de la libération. Donc un moment très émouvant.
Dans le rang protocolaire, on pouvait retrouver des représentants de la mairie de Nouméa, du Congrès, mais aussi le député de la première circonscription Nicolas Metzdorf, la présidente de la province sud Sonia Baquès, la membre du gouvernement Isabelle Champmoreau. Des gerbes ont été déposées par les autorités civiles et militaires, mais aussi par Loris Mousset, 18 ans. Il est élève de la classe défense au lycée La Pérouse.
Je pense que c'est important justement pour pas qu'on oublie. Parce que ça a forcément eu un impact. Et je veux dire, tout le monde y a participé. Donc c'est bien de continuer à montrer cette mémoire à tous. Je suis venu personnellement parce que ça m'intéressait. Et voilà, pour voir comment ça se passait réellement. C'était assez impressionnant à voir. Franchement, très manœuvré. Tout était fait à la minute. Donc ouais, c'était super intéressant à observer.
L'appel du 18 juin a été commémoré hier à Païta au Monument aux Morts en présence notamment de la maire de la commune, Marilyn D'Arcangelo, Catherine Merckx, commissaire déléguée en province sud et des anciens combattants.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. 85 ans après, est-il toujours important, selon vous, de commémorer l'appel du 18 juin du général de Gaulle? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier est 67% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS. Pensent que les États-Unis doivent s'engager militairement dans la guerre contre l'Iran. Ils sont 33% à être d'un avis contraire. Plus aucun commanditaire présumé des violences de Maine et derrière les barreaux. Gilles Jourédier était le dernier encore incarcéré en détention provisoire au camp Est. Les trois juges d'instruction parisiens ont pris la même décision le concernant que celle qu'ils ont prise pour les autres militants de la CCAT qui avaient été transférés en métropole. Le référent de la CCAT de Canala a donc pu quitter le camp Est. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Les faits divers en bref et quatre mineurs interpellés par la police en plein cambriolage. Les faits se sont déroulés hier vers 17h. Une habitation du PK6 était en train d'être visitée lorsqu'une brigade spécialisée de terrain est intervenue. Les quatre jeunes sont actuellement en garde à vue et seront présentés à un tribunal pour mineurs pour vol avec effraction. Une enquête est en cours. Et puis un incendie à Thiot, près de la tribu de Saint-Michel. Il est sous surveillance de la gendarmerie encore ce matin. Il s'agissait d'un feu de brousse qui a été rapidement circonscrit hier en fin d'après-midi. Il n'y avait pas d'habitation menacée. La Nouvelle-Calédonie demeure confrontée à un climat économique très dégradé. C'est ce que relève l'IOM dans sa note de conjoncture économique du premier trimestre 2025, Nicolas Legrand.
Oui, en cause évidemment les émeutes de mai 2024 et la crise du secteur nickel. Chaque trimestre, vous le savez, l'IOM interroge 200 chefs d'entreprise pour établir le climat des affaires. Après les destructions des sociétés et des bâtiments, cet indice reflétant le moral des dirigeants avait atteint son plus bas niveau historique. Depuis, il est remonté légèrement à 81,9 points. C'est ce que nous a dit ce matin Fabrice Dufresne, le directeur de l'IOM, qui était notre invité.
Nous enregistrons en fait une légère progression qui donc s'inscrit dans un mouvement de hausse depuis la fin des émeutes. C'est plutôt un bon signal. Nous sommes à un niveau relativement encore bas de 82, mais un des signaux positifs que l'on peut observer, c'est qu'il dépasse en fait le niveau qu'il avait atteint pendant la crise Covid. Alors il y a une sorte de mouvement inverse par rapport au mois de juin 2024 qu'on observe, c'est au niveau de la perception des chefs d'entreprise sur les risques de défaillance à un an. Donc cette proportion est en train de baisser. On est à peu près un tiers des chefs d'entreprise qui considèrent que le risque de défaillance commence à s'éloigner. En revanche, il y a une proportion beaucoup plus importante de chefs d'entreprise qui pensent que ne pas retrouver leur niveau d'activité d'avant-crise, et cette proportion, elle augmente progressivement, elle se situe à 60%.
L'IEM qui scrute les différents indicateurs de l'économie calédonienne et notamment la consommation. Le nombre d'immatriculations de voitures neuves de particuliers a baissé de 47%. La production de crédits à la consommation reste basse. Seul signe encourageant, une légère remontée des crédits accordés pour les achats immobiliers.
Ça reflète le niveau encore assez dégradé de la situation économique de la Nouvelle-Calédonie puisque à la fin du mois de mars 2025, on enregistre en fait une production de crédits de 17 milliards qui est le point le plus bas que la Nouvelle-Calédonie n'avait pas observé sur les précédents trimestres.
En moyenne,
on était entre 40 et 50 milliards par trimestre, donc le niveau est relativement bas. En revanche, il y a un signal positif, c'est une légère reprise de la production de crédit immobilier aux particuliers, mais c'est le seul point positif dans l'ensemble des segments de crédit des banques.
Les banques calédoniennes qui sont aussi touchées par la crise. Les quatre banques de la place ont d'ailleurs vu leur produit net bancaire baisser. Il s'agit en quelque sorte du chiffre d'affaires de ces établissements qui est composé des frais appliqués sur les services, mais aussi de la marge réalisée entre la rémunération des dépôts et le coût des crédits. Et malgré les difficultés, les banques calédoniennes restent sûres, selon Fabrice Dufresne, le directeur de l'IOM.
La situation des banques est encore très solides, font face bien entendu, comme l'ensemble du tissu économique des entreprises, à la fois à une baisse d'activité, la perte de PNB assez conséquente, de moins 15%, mais également une élévation du coût du risque. Donc il y a de plus en plus de risques, c'est plutôt sur le segment clientèle entreprise que des particuliers notamment, avec un taux de créance douteuse qui est de 7,6%, qui est un des taux les plus élevés de l'ensemble des Outre-mer. Et donc ça pèse sur les conditions d'exploitation d'une banque, donc baisse du chiffre d'affaires et hausse du coût du risque, bien entendu, ça pèse sur le résultat net des banques et au titre de l'année 2024, donc c'est la première fois que le résultat net cumulé des quatre banques affiche un résultat net négatif assez significatif.
Et cela représenterait donc un résultat net négatif de 5 milliards de francs pour l'ensemble des quatre banques.
Une page consacrée à l'actualité dans la région est d'abord santé, avec la CPS qui développe une méthode participative pour lutter contre les maladies non transmissibles. Depuis 2017, des ambassadeurs de la santé sont formés chaque année par la communauté du Pacifique. Originaire de 6 pays, ces jeunes vont développer un projet de prévention auprès de leur communauté, Charlotte Coulson.
Qu'il s'agisse du diabète, des cancers, des infarctus ou même des AVC, ces pathologies dites non transmissibles sont en grande partie évitables. Elles trouvent souvent leur origine dans des comportements adoptés dès l'adolescence. Le tabagisme, l'alimentation, la pratique du sport sont des facteurs clés. Il suffirait donc de mobiliser les populations, faire de la prévention. Mais c'est une tâche ardue lorsque les mauvaises habitudes sont bien ancrées. La CPS a donc choisi de former des ambassadeurs qui agiront directement auprès de leur communauté. Âgés de 18 à 30 ans, ils viennent de Fidji, des îles Salomon, de Kiribati, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Polynésie française ou même de Nouvelle-Calédonie et participent cette semaine à 5 jours de formation que nous détaille Solène Bertrand, conseillère en maladies non transmissibles à la CPS.
Donc la première journée, on leur donne toutes les informations pour qu'ils aient les bons messages, les connaissances nécessaires pour intervenir auprès du public et ensuite quand ils rentrent dans leur pays. Et ensuite, les 2 jours suivants sont sur comment communiquer pour faire changer le comportement. Et on a des projets très divers. Les jeunes ont vraiment des idées complètement différentes qui sont adaptées à leur contexte. Certains ont envie de faire des escape games sur le thème de la nutrition. D'autres sont sur le tabac ou l'alcool et veulent faire des activités en partenariat avec les églises, par exemple, pour nos amis des îles Kiribati. Donc c'est vraiment des projets qui sont très variés. Donc c'est toute la richesse de ce programme. Et la dernière journée va être concentrée sur la gestion de projet. Parce que finalement, avoir des idées, c'est vraiment super, mais après, il faut pouvoir les mettre en œuvre. Donc on leur donne, nous, toutes les clés pour qu'ils puissent ensuite, en rentrant chez eux, avoir plus de facilité à mettre en place leurs actions et avoir un réel impact auprès de leur communauté.
Et les 15 participants n'ont pas été choisis au hasard, mais sur la base d'un projet de prévention qu'ils ont présenté à la CPS. Parmi les futurs ambassadeurs, Heilani Toa, 19 ans, membre de l'Union polynésienne pour la jeunesse.
Nous avons constaté également chez nous, à Tahiti, qu'il y a énormément de personnes qui sont touchées par les MNT, le diabète, également le cancer, et qu'il n'y a pas assez de promotion de santé. Notre projet, la première partie est une formation académique de personnes. La deuxième était une activité, une mise en place de la formation, un escape game. Et la dernière partie était approfondir leurs connaissances dans ce qu'ils ont appris. Notre formation est justement d'approfondir de nos connaissances, d'approfondir notre projet, c'est-à-dire d'élargir notre projet, de nous donner les moyens, de nous donner les outils, de nous donner les connaissances, de nous donner des manières justement d'appréhender les personnes. C'est très utile.
Et la formation prend fin ce vendredi, mais le projet, lui, continue. Les ambassadeurs, de retour dans leur pays d'origine, vont pouvoir mener à bien leurs objectifs de prévention contre les MNT auprès de leur communauté.
L'actualité dans la région, c'est aussi cette annonce de l'administration américaine qui veut imposer des restrictions de voyage aux ressortissants de 36 nations supplémentaires, ce qui a fait réagir le ministre des Affaires étrangères néo-zélandais, alors que 3 pays de la région figurent sur cette liste, Jean-Pierre Zajac.
Les Tonga, le Tuvalu et le Vanuatu figureraient sur cette nouvelle liste supplémentaire, ce qui a incité Winston Peters à déclarer que, je le cite, « nous avons le droit de décider en Nouvelle-Zélande qui peut entrer dans notre pays. La Chine aussi, l'Australie aussi et les États-Unis aussi », a-t-il ajouté. Le Tuvalu et le Vanuatu vendent des passeports, a-t-il précisé, et vous voyez comment une décision innocente prise à Funafuti ou à Port Vila peut susciter des inquiétudes aux USA en matière de sécurité. De tels programmes ont la capacité de préoccuper l'administration américaine, a-t-il insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h45 dans ce journal qui se poursuivra dans un petit instant après une pause avec l'actualité en métropole et dans le monde, occupée évidemment par le conflit entre l'Iran et Israël. À tout de suite.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
La fête de la musique est de retour à Nouméa ce samedi 21 juin. À partir de 16h30, tous les styles seront à la fête sur les 4 scènes de la place des Cocotiers. Et rendez-vous également à la cathédrale Saint-Joseph pour y retrouver des chorales. La ville de Nouméa vous attend ce samedi 21 juin pour célébrer la musique. Programmation complète sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité à l'étranger, alors que les missiles iraniens continuent d'être lancés contre Israël. La guerre entre les deux pays a occupé les débats du G7 réuni au Canada. Un sommet que Donald Trump a quitté précipitamment pour rentrer à Washington, où il préside un conseil de sécurité nationale. Selon Emmanuel Macron, le président américain veut négocier un cessez-le-feu. Donald Trump, à bord d'Air Force One, était visiblement agacé de voir le président français parler pour lui du règlement de ce conflit.
Nous cherchons mieux qu'un cessez-le-feu. Gardez ça à l'esprit. L'Iran ne peut pas se doter de l'arme nucléaire. C'est très simple. Il n'y a pas besoin de se creuser la tête. L'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire.
Qu'est-ce que vous entendez par mieux qu'un cessez-le-feu ?
Une fin réelle, pas un cessez-le-feu.
Et Donald Trump a au passage qualifié Emmanuel, comme il l'appelle, de chic type, mais qui ne comprend jamais rien. Une déclaration qualifiée de péripétie par le président français qui a ajouté « ça ne m'émeut pas parce que je le connais ». Un peu plus tard, Emmanuel Macron a réaffirmé qu'il ne fallait pas que l'Iran possède la bombe atomique et qu'il ne fallait pas non plus s'en prendre au pouvoir et à l'ayatollah Khamenei, comme l'ont laissé entendre Israéliens et Américains.
Oui à ce que l'Iran n'ait jamais l'arme nucléaire. Oui pour contenir le nucléaire civil. Et l'encadrer de manière internationale. Oui, pour réduire son programme balistique. C'est ce sur quoi nous œuvrons depuis, là aussi, 8 ans. Oui, pour réduire toutes les aides aux groupes régionaux qui créent la déstabilisation depuis tant d'années. Non aux frappes sur les infrastructures énergétiques. Non aux frappes contre les populations civiles. Et non aux actions militaires qui conduiraient à un changement de régime. Parce que personne ne sait dire ce qui vient après. Il faut les aider à réduire tous ceux qui, en effet, menace leur sécurité, mais ils ont besoin de tout sauf du chaos.
Le Conseil de sécurité nationale que préside Donald Trump doit envisager toutes les solutions pour mettre un terme à ce conflit, peut-être avec une intervention militaire. Plusieurs navires de la marine américaine, dont le porte-avions Nimitz, font route sur la zone.
C'est à l'occasion des...
L'actualité en métropole avec un déjeuner qui n'est pas passé inaperçu. Nicolas Sarkozy a déjeuné à Matignon avec le Premier ministre François Bayrou. Une rencontre improbable il y a encore quelques semaines, alors que les divergences entre les deux hommes sont nombreuses. Alors pourquoi ce déjeuner et pourquoi maintenant ? Maïhélène Trémollet pour Europe 1.
C'est à l'occasion des 70 ans d'Europe 1, début juin, que François Bayrou et Nicolas Sarkozy conviennent d'une rencontre. L'invitation ne se fait pas attendre. 10 jours plus tard, les deux hommes se retrouvent pour un déjeuner de 2 heures à l'hôtel de Matignon. Déjeuner qualifié de sympathique par l'entourage de François Bayrou, qui rappelle que si ce rendez-vous réunit deux hommes qui se sont fortement combattus lorsque Nicolas Sarkozy était au fait de sa puissance, le contexte est désormais différent. Pour l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Camille Pascal, cette rencontre marque surtout un moment fort de la vie politique française entre deux grands fauves politiques. Il faut dire que ce tête-à-tête pourrait mettre un terme à des années d'inimitié et des affrontements médiatiques encore récents. Ainsi, en décembre dernier, l'ancien président de la République, très écouté par l'Élysée, poussait pour la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon et n'avait pas manqué de qualifier l'arrivée de François Bayrou à la tête du gouvernement de spectacle affligeant. Toujours est-il que ce rendez-vous pourrait marquer le début d'une réconciliation, selon Camille Pascal, pour qui il est désormais temps, je cite, de jeter la rancune à la rivière.
L'actualité en métropole, c'est aussi la fin ou presque du conclave des retraites. Les partenaires sociaux qui restent autour de la table peinent à trouver un terrain d'entente et ils devraient se retrouver encore une fois en début de semaine prochaine. Il semble toutefois acté qu'ils ne proposeront pas de changement de date de départ à la retraite, toujours fixée à 64 ans. François Bayrou s'est engagé à soumettre un éventuel accord au vote du Parlement. Airbus engrange les commandes au Salon du Bourget. Une semaine après le crash d'un Boeing de la compagnie Air India, l'avionneur américain est en difficulté. Hier, Airbus a déjà signé 4 contrats qui représentent 130 appareils au total. Et ces dernières heures, Airbus a enregistré une commande record de la compagnie vietnamienne Vietjet. Brieux Baucher pour Europe 1.
C'est la plus grande compagnie aérienne privée du Vietnam qui a annoncé l'achat de 100 A321 Neo. Elle a aussi pris une option sur 50 appareils supplémentaires. Il s'agit de la plus grosse commande de cette 55e édition du Bourget. Selon des estimations, la vente de ces appareils pourrait rapporter plus de 6 milliards de dollars à Airbus. Avec cette nouvelle annonce, le carnet de commandes du constructeur se remplit encore un peu plus. Avant le salon, Il était déjà à plein pour les 8 années à venir. Le revers de la médaille, c'est qu'il faut maintenant assurer les livraisons dans les délais. Or, l'avionneur avait déjà révélé en fin de semaine dernière des retards, notamment pour des problèmes d'approvisionnement sur les moteurs, mais aussi, et c'est plus cocasse, sur les toilettes qui équipent ces avions.
Et puis revenons sur le scandale des airbags défectueux qui a encore des conséquences. Citroën demande en effet l'immobilisation de toutes les C3 et les DS3 équipées de ces airbags Takata. Cela représente 400 000 véhicules au niveau européen et 82 000 en métropole. Décision prise après un accident mortel la semaine dernière, rappelle Alexis de la Fléchère.
Il est près de 17h mercredi dernier. Une femme de 37 ans circule sur la voie rapide de Reims avec sa fille de 13 ans. Elles sont à bord d'une Citroën C3 modèle 2014 lorsqu'un poids lourd les percute à l'arrière. L'airbag se déclenche mais explose au visage de la conductrice. Une pièce métallique est retrouvée dans son larynx. Elle meurt 3 jours plus tard à l'hôpital. C'est le deuxième décès en métropole lié à ces airbags Takata. Mais depuis 2016, une dizaine d'autres morts ont été recensées en Outre-mer où ces airbags se dégradent plus vite à cause de la chaleur et de l'humidité. Le ministre impose donc à Citroën d'élargir son stop drive à tous les véhicules rappelés. Une mesure exceptionnelle qui oblige le constructeur à envoyer un message d'alerte maximale à ses clients. On n'est plus dans le simple rappel. Mais attention, les automobilistes peuvent tout de même continuer à rouler s'ils le souhaitent. Il n'y a ni amende, ni retrait de points. En revanche, en cas d'accident avec déclenchement de l'airbag, l'assurance pourrait refuser d'indemniser si elle estime que le conducteur a délibérément ignoré un risque grave et connu.
Il est 11h52, la dernière pause de ce journal avant l'actualité sportive. Nous ferons un point notamment sur la Groupama Race, toujours très agitée. Le premier bateau pourrait bien couper la ligne d'arrivée dès ce soir.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Du 18 au 22 juin, c'est les jours complètement waouh dans vos magasins Auchan Auteuil et Auchan Café Ries. Avec votre carte de fidélité, profitez chaque jour de 5% de cagnottage supplémentaire sur un rayon différent ou sur nos produits Auchan. 5 jours, 5% de cagnottage en plus, waouh, ça vaut vraiment le coup. Détails de l'offre à retrouver sur les pages Facebook des magasins Auchan. Le bon, moins cher.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. Tout le sport en 3 lettres, RRB.
Info Mag, l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
On va tout de suite faire le point sur la New Caledonia Groupama Race, une course à rebondissement cette année, Mikael Juzneski, notamment après la grosse frayeur pour les tenants du titre, les Australiens de Rush Hour.
Oui, on le rappelle, c'était dans la nuit de lundi à mardi, vers 1h du matin, dans le nord du lagon calédonien, le basculement de la coque du catamaran, sans doute à cause d'une rafale de vent. La réaction très vive des membres de l'équipage leur a permis de s'en sortir, comme nous l'a dit le directeur du cercle nautique calédonien, Tugduel Piriou.
Ils ont été surtout surpris de la vitesse à laquelle le bateau s'est retourné. C'est assez rarement le cas. Ils se sont retrouvés à l'envers très vite. Avec ceux qui étaient sur le pont, se sont retrouvés à l'envers sur le pont, donc dans l'eau. Et ceux qui se reposaient à l'intérieur se trouvaient dans le noir avec de l'eau qui monte. Et le toit qui était devenu le plancher. Alors ils sont entraînés. C'était un équipage de gens aguerris. Donc ils ont des procédures qui travaillent de sécurité. Ils avaient une trappe qui est faite exprès. Les catamarans ont des trappes qui sont au sol habituellement, et quand le bateau est à l'envers, la trappe devient la porte de secours vers la sortie. Et ils ont pu se repérer dans le noir total, dans l'eau, avec des poches d'air quand même dans le bateau, pour ouvrir cette trappe pour ceux qui étaient à l'intérieur et sortir. Mais je n'aurais pas aimé être à leur place. Il a fallu beaucoup de temps pour nous rassurer sur le fait qu'il n'y ait pas de blessés ou de blessés fortement.
Aucun blessé donc. Et hier matin, les membres de l'équipage ont tous été retrouvés sains et saufs, debout sur la coque retournée de Rush Hour. Ils ont ensuite été élitreillés par le Puma des Fanques. Plus de peur que de mal, même si dans une zone aussi éloignée des côtes, l'opération de sauvetage pilotée par le Centre de coordination de sauvetage maritime de Nouvelle-Calédonie n'a pas été de tout repos. Nicolas Chaumard, directeur du COSNC.
Oui, donc en fait, le COS, vers 1h15 du matin, vers 1h15, a reçu d'abord des émissions de balises de détresse. Ensuite, il y a tout un travail d'investigation qui a été mené, d'analyse. On a essayé de contacter pendant quelques heures le bateau qui ne répondait plus, qui n'émettait plus non plus son tracking AIS ni satellitaire. On a considéré qu'il s'était passé quelque chose et c'est à partir du moment-là qu'on a le COS, coordonnant les moyens, décidé d'engager un avion de la Marine nationale, celui des Forces armées en Nouvelle-Calédonie, qui est arrivé sur zone vers 8h. En parallèle, le voilier Romance de la course avait également été dérouté pour se rendre sur les lieux du sinistre, là où les balises émettaient également. Et après une heure et demie, où le gardien était en survol au-dessus des naufragés qui étaient sur la coque, on a pu avoir la confirmation qu'on avait bien les 6 personnes qui étaient à bord. Et enfin, la dernière étape d'opération a été l'engagement de Puma, ont permis de récupérer sains et saufs et en bonne santé les 6 naufragés vers midi à peu près, et d'être déposé sur la terre ferme vers 1h moins 10.
Une opération de sauvetage qui n'aurait pas été possible sans l'aide d'un autre bateau en course, le Romance, qui s'est dérouté pour porter assistance à Rush Hour. Le Romance aura en tout été mobilisé au moins 7 heures, un temps qui devrait donc être décompté de son temps de course. Du point de vue justement de la course, eh bien les cartes ont été rebattues après cet abandon du tenant du titre et grand favori qui était largement en tête. Alors actuellement, au classement en temps réel, ce sont les Néo-Zélandais de Vifa qui sont leaders. Le monocoque skippé par Brian Peterson remonte la côte ouest et devrait atteindre Nouméa en début de soirée ce mercredi, si les conditions restent les mêmes, pour être le premier à franchir la ligne d'arrivée, avant évidemment le calcul des handicaps et des compensations. Derrière, 5 navires sont à la lutte dans un mouchoir de poche, notamment le catamaran australien de Romance. On en parlait il y a quelques minutes. Il joue encore la victoire finale après avoir porté assistance à Rush Hour, mais aussi Ben C. Mynett de Michel Quintin, qui vise lui un nouveau succès en temps compensé et dans sa catégorie de navire. La bataille fait rage avec Pulpito MLS FCD de David Tréguier, Guilty Pleasure Speed Marine Epuro d'Alexandre Ruiz et Young Guns Géant Sainte-Marie de Patrick Baldi. Ces trois derniers ont choisi de revenir plus près de la côte, alors que BNC Mynett a opté pour une trajectoire plus au large de la passe de Poya. Signe de la difficulté de cette course, on déplore en tout 6 abandons au total, avec encore ces dernières heures celui de BCI Brer Fox, le monocoque skippé par Mathieu Landrieux, le président du CNC. À 7h ce matin, un forfait pour une avarie sur sa grand voile. Pour d'autres, la course est encore rude, à l'image du duo père-fille Ancien à bord de Girouette, qui a eu du mal à franchir le grand passage dans le nord du lagon, comme l'explique lors de sa dernière vacation Noah Ancien.
On a obtenu pour aller à l'intérieur et profiter un peu de la mer, parce que c'est quand même assez violent, ça tape énormément. Donc on a rien dormi cette nuit et de la journée d'hier. Donc là, on va à l'intérieur pour pouvoir un peu dormir et récupérer. On l'a bien continué là, dans les vagues, il a rien bien tapé. Mais ça va. On peut aussi revenir à l'intérieur parce que franchement, on est fatigué, mais ça va.
Et des conditions musclées donc, et une édition 2025 qui restera dans les mémoires. Rappelons un peu plus le caractère très difficile de cette course. Nous en sommes à 3 jours et quasiment 2 heures d'épreuve pour ce Tour de Calédonie à la voile.
On va passer au sport sur la scène nationale avec du football et une pluie d'hommages après l'annonce de la mort de Bernard Lacombe.
La famille du ballon rond français endeuillé, ancien international chez les Bleus, entraîneur emblématique par la suite également de l'Olympique Lyonnais. Bernard Lacombe a marqué les esprits. Après sa carrière de joueur, il a participé à la construction de l'équipe de Lyon qui a notamment remporté 7 titres de champion de France. C'était entre 2002 et 2008. Parmi les très nombreux messages, celui de l'ancien président de Lyon, Jean-Michel Aulas, qui a côtoyé le joueur puis cadre sportif pendant près de 37 ans.
C'est une terrible nouvelle, mais aussi un soulagement, parce que j'étais avec Bernard hier après-midi encore. C'est vrai qu'il a beaucoup souffert. Donc, à un moment donné, quand on refait le film des 37 ans passés ensemble professionnellement, on a toujours tendance à penser aux belles histoires. Bernard faisait partie de ces hommes, de ces footballeurs exceptionnels, mais c'était aussi un homme exceptionnel.
On le disait, les hommages sont très nombreux, notamment le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, qui a salué l'empreinte indélébile en tant que joueur, entraîneur et dirigeant qu'a laissé Bernard Lacombe. Avec sa disparition, le foot français perd l'un de ses plus fidèles serviteurs, a de son côté ajouté Didier Deschamps, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France. Bernard Lacombe avait évolué à Lyon, bien sûr, mais aussi Saint-Étienne, Bordeaux. Il reste le 3e meilleur buteur de l'histoire de l'OL, avec 149 buts inscrits à Lyon et un total de 255 buts en première division. Il avait également été de l'aventure en équipe de France lors du sacre à l'Euro 1984 aux côtés de Michel Platini. Il est donc décédé à l'âge de 72 ans.
On va voir le reste de l'actualité sportive en bref avec du foot toujours et la Coupe du Monde des clubs qui se poursuit.
La suite de la première journée des phases de poule aux États-Unis, on retiendra ce nul entre les Allemands du Borussia Dortmund et les Brésiliens de Fluminense, 0-0 pour le compte du groupe F. Dans le groupe E, les Argentins de River Plate ont triomphé des Japonais d'Urawa Reds Diamonds, 3-1. À suivre d'ici quelques minutes à midi, la rencontre entre les Mexicains de Monterrey et les finalistes malheureux de la dernière Champions League, les Italiens de l'Inter Milan. Demain matin, dans le groupe G, Manchester City sera opposé à Casablanca. À la mi-journée, la Juventus de Turin retrouvera les Émiratis d'Al Ain. Dans le groupe H, le Real Madrid de Kylian Mbappé croisera le fer avec les Saoudiens d'Al Hilal. Le PSG jouera lui son deuxième match de groupe vendredi. Après la victoire sur l'Atlético de Madrid 4-0, les Parisiens feront face aux Brésiliens de Botafogo. Coup d'envoi de la rencontre à midi pour nous.
Et puis les Bleus, c'est toujours du football, ont remporté leur troisième match de l'Euro Espoir.
L'équipe de France qui s'est imposée sur la Pologne 4-1, doublé de Djaoui Cissé. Les Bleus qui terminent deuxième de leur groupe, à égalité avec les Portugais, mais avantage au goal average au Portugal. L'équipe de France qui affrontera le Danemark en quart de finale.
Et puis du tennis avec le tournoi du Queen's à Londres, prélude à Wimbledon. Les Français étaient en lice pour le premier tour.
Ouais, c'est passé pour Arthur Rinderknecht qui a sorti l'Américain Ben Shelton, tel de série numéro 6. Victoire au terme d'un match serré, 7-6, 7-6. Corentin Moutet aussi a bataillé contre un autre Américain, Taylor Fritz, avant de s'imposer en 3-7, 6-7, 6-7, 7-5. En revanche, Giovanni Petit-Péricard s'arrête dès le premier tour après sa défaite contre Brandon Nakashima, encore une fois un Américain, sur le score de 6-7, 7-6, 6-4.